de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Dans le monde entier, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les nouvelles de l'Indonésie et d'autres infos telles que l'histoire aujourd'hui, mon Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz sur le site web www.voanews.id. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec le titre. L'Indonésie espère que la résolution sur le cessez-le-feu à Gaza ne fera pas l'objet d'un veto du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Joko Widodo a souligné qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter au cours de l'année politique. Sandiaga Uno a déclaré que l'objectif du tourisme et de l'économie créative avait été dépassé en 2023. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré qu'un cessez-le-feu est nécessaire de toute urgence dans la bande de Gaza. Elle espère qu'il n'y aura plus de veto qui empêchera le Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution pour mettre fin au combat à Gaza. La ministre Retno Marsudi, dans son communiqué de presse après une visite en Tunisie vendredi 22 décembre, a déclaré que sans cessez-le-feu, le processus d'envoi d'une aide humanitaire adéquate et durable à Gaza serait difficile. Elle a souligné que dans la guerre, il y a des règles et des lois qui doivent être respectées. La ministre des Affaires étrangères espère que la résolution visant à mettre fin au combat à Gaza pourra être adoptée prochainement. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que la situation de l'Indonésie au cours de l'année politique avant les élections simultanées de 2024, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, surtout pour les hommes d'affaires. Le président, lors de l'événement Perspective économique indonésienne à Jakarta vendredi 22 décembre, a souligné que les conditions politiques en Indonésie avant les élections de 2024 sont dans une atmosphère calme et bien différente par rapport aux élections de 2014 et 2019 auxquelles il a participé. Je pense que la situation est très différente par rapport aux élections de 2014 et 2019. Très différente. Cela signifie que notre société a mûri sur le plan politique. La Commission électorale générale indonésienne, ou KPU, a reçu l'enregistrement de trois paires de candidats à la présidence et à la vice-présidence pour l'élection présidentielle de 2024, à savoir Anies Baswedan et Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo et Mahfud MD, et Prabowo Subianto et Gibran Rakabuming Raka. La Commission électorale générale indonésienne, ou KPU, a également fixé la période de campagne électorale du 28 novembre 2023 au 10 février 2024, tandis que le vote est prévu le 14 février 2024. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Uno, est reconnaissant que les objectifs du tourisme et de l'économie créative étaient dépassés en 2023. Lors de la conférence de presse de fin d'année du ministère du Tourisme et de l'Économie créative à Jakarta vendredi 22 décembre, Sandiaga Uno a déclaré que l'objectif de 8,5 millions de visites touristiques étrangères avait été dépassé. En octobre 2023, ont été enregistrées 9,5 millions de visites et on prévoit qu'il y aura 11 millions de visites des touristes étrangers en décembre 2023. Selon Sandiaga Uno, de cette visite touristique a généré des déficits touristiques de 10,5 milliards de dollars américains, soit 4% de la contribution du tourisme au produit intérieur brut.
Terima kasih.
Merci pour votre coopération afin que les déficits de tourisme atteignent 10,5 milliards de dollars. La contribution du tourisme au PIB est estimée à 4%. Sandiaga Uno a déclaré que non seulement les réalisations nationales, le tourisme indonésien est aussi reconnu dans le monde entier. Selon Sandiaga Uno, le classement touristique de l'Indonésie est passé au 32e rang dans l'indice de compétitivité des voyages et du tourisme et au-dessous de la Malaisie, de la Thaïlande et du Vietnam. Selon lui, pour la première fois dans l'histoire, l'Indonésie occupe la première place dans le Global Muslim Travel Index. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a rencontré le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, dans la capitale Tunis, jeudi 21 décembre, heure locale, pour encourager l'accélération des accords commerciaux provinciaux et une coopération concrète dans l'industrie des engrais. Les négociations sur l'accord commercial provincial Indonésie-Tunisie sont en cours depuis 2018, avec 6 cycles de négociations menés et le dernier en 2022. Retno Marsudi, lors de son communiqué de presse en ligne concernant sa visite à Tunisie, cité par Antara vendredi, a souligné que l'Indonésie et la Tunisie se sont engagés à accélérer les négociations. Avec la mise en œuvre de l'accord commercial provincial, selon Retno Marsudi, les relations commerciales entre les deux pays devraient être plus fortes. Elle a ajouté que le volume commercial entre l'Indonésie et la Tunisie a continué de croître à un rythme moyen de 29,39% par an depuis 2018. L'année dernière, le volume de commerce bilatéral a été enregistré de 215,3 millions de dollars américains, soit environ 3,3 billions de roupies, soit le volume le plus élevé depuis 2018. Retno Marsudi espère qu'avec les accords commerciaux provinciaux, cette tendance commerciale se renforcera. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, s'est rendue vendredi à Rabat, le Maroc, pour discuter de diverses collaborations potentielles qui pourraient être établies avec l'Indonésie, ayant de la coopération en matière de phosphate pour l'industrie des engrais à la production conjointe de vaccins. Lors de sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, la ministre Retno Marsudi a exprimé son espoir que le Maroc, qui possède plus de 70% des réserves mondiales de phosphate, est l'un des fournisseurs de matières premières d'engrais pour divers pays du monde, puisse continuer à soutenir la sécurité et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement en engrais en Indonésie. Retno Marsudi a déclaré que PT Pupuk Indonesia avait collaboré avec le groupe marocain OCP pour acheter des matières premières d'engrais. Le total des achats de minéraux du groupe OCP au cours de la période 2018 jusqu'à 2023 a atteint plus de 2 millions de tonnes. La ministre Retno Marsudi, dans un communiqué de presse diffusé sur la chaîne YouTube du ministère des Affaires étrangères indonésien, a déclaré que son parti envisageait de renforcer la coopération en matière d'investissement avec des partenaires au Maroc pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en matière première phosphate en Indonésie. Au cours de la réunion, Retno Marsudi a également discuté des opportunités de coopération dans la production conjointe de vaccins, y compris la recherche et l'échange de connaissances pour soutenir l'indépendance vaccinale des deux pays ainsi que des pays d'Asie et d'Afrique. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Lombok Oriental, Nusa Tenggara Ouest. Le bureau du Parc National Dumong Rinjani, Lombok Oriental, dans la province de Nusa Tenggara Ouest, a déclaré que toutes les destinations touristiques d'escalade et plusieurs destinations touristiques non alpinistes dans la région de Rinjani sont temporairement fermées. Le chef du bureau du Parc National Dumong Rinjani, Nusa Tenggara Ouest, Musudedi Asriadi, dans une déclaration écrite à Mataram, a déclaré mercredi que la fermeture sera faite du 1er janvier jusqu'au 31 mars 2024. Les voies d'escalade qui sont fermées comprennent la voie d'escalade Sembalun, la voie d'escalade Torian, la voie d'escalade Tete Batu, la voie d'escalade Ai Berik, la voie d'escalade Timbanum et la voie d'escalade Senaru. Pendant ce temps, les destinations touristiques non grimpantes qui sont fermées sont la cascade de Jeruk Manis, le village de Jeruk Manis, le district de Sikur et la cascade de Mayung Polak, le village de Timbanu, le district de Pringasela dans la région de Lombok Est et la cascade Mangku Sakti via le village de Sajang, le district de Sembalun dans la région de Lombok Est et le village de Sambi Elen, le district de Bayan dans la région de Lombok du Nord. Dedi Asriadi a déclaré que la fermeture sera effectuée en référence à la lettre du chef du Centre de volcanologie et d'atténuation des catastrophes géologiques concernant la soumission d'un rapport évaluation sur l'activité du Mont Rinjani au niveau 2. En outre, la fermeture a été effectuée afin de restaurer l'écosystème dans la zone du parc national du Mont Rinjani et de sensibiliser aux catastrophes hydrométéorologiques potentielles telles que de fortes pluies et des vents forts. Mais selon lui, il n'est pas toutes les attractions touristiques sont fermées. Les touristes peuvent encore visiter plusieurs autres alternatives touristiques, y compris des destinations sans escalade qui sont ouvertes, telles que Otak Kokok, Tereng Wilis, la cascade Benang Stoke et Bukit Selong. Les nouvelles suivantes sont venues de Sabang, Aceh. Le gouvernement de la ville de Sabang a officiellement un logo unique de marque pour touristique Sabang comme identité de la région de Pulauwe ou Lilwe pour commercialiser tout le potentiel touristique culturel et l'économie créative dans le but d'améliorer l'économie de la communauté. Le maire par intérim de Sabang, M. Reza Fahlevi, a déclaré mardi dans un communiqué à Banda Aceh que cette image de marque vise à augmenter les recettes en devises provenant des secteurs du tourisme, de la culture et de l'économie créative, ainsi qu'à accroître les opportunités d'affaires et compétitives pour que de nouveaux investissements puissent se développer à Sabang. Le logo de la marque touristique Sabang a été officiellement lancé par le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Uno, au bâtiment Pesona Sabta dans le centre de Jakarta lundi 18 décembre. Reza Fahlevi a déclaré que Sabang avait un potentiel extraordinaire, le produit principal étant le maritime et la culture comme autre produit secondaire. C'est aussi la raison pour laquelle il estime que le tourisme deviendra le principal secteur capable d'encourager d'autres secteurs à se développer. La dernière nouvelle vient de Magelang, Java Central. Un total de 500 participants pebaja Samanera sementara ont effectué le Pradaksina, à savoir faire trois fois le tour du temple de Borobudur dans la région de Magelang, dans le centre de Java, pour rendre hommage au Bouddha Dharma et à la Sangha. Le président du comité pebaja Samanera sementara, Fatmawati à Borobudur, dans la région de Magelang, a déclaré mardi que la séquence la plus importante est qu'avant que Samanera ordonne de rendre hommage dans manière pradaksina. Pradaksina est l'une des plus hautes façons de respecter le Bouddha. Le directeur d'affaires et éducation bouddhiste, le directeur général de l'orientation de la communauté bouddhiste du ministère de la Religion, M. Nyoman Suryadharma, a salué et apprécié le pebaja Samanera qui est régulièrement organisé par le Conseil religieux bouddhiste indonésien Mahanikaya au temple de Borobudur. Il espère que la formation pebaja Samanera permettra à chacun de connaître la vie. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'histoire d'aujourd'hui. Le 23 décembre 1954, la transplantation rénale réalisée à Boston. La transplantation d'organes est une greffe ou un transfert de tout ou partie d'un organe d'un corps à un autre ou d'une partie à une autre partie d'un même corps. La première transplantation rénale à long terme réussie a été réalisée le 23 décembre 1954 dans un hôpital à Boston. Le docteur Joseph Murray a réalisé une greffe de rein sur les jumeaux monozygotes Richard et Ronald Eric. Richard reçoit l'un des reins de Ronald. Richard a pu vivre 8 ans de plus. Grâce à ses efforts en matière de transplantation, Joseph Murray a reçu le prix Nobel de médecine en 1990. Le 23 décembre 1954, l'Université Andalas à l'ouest de Sumatra a été officiellement inaugurée. L'Université Andalas est une université d'État indonésienne située dans la ville de Padang à l'ouest de Sumatra. Cette université est la plus ancienne université en dehors de Java et a été officiellement inaugurée le 23 décembre 1955 par le vice-président Mohammad Hatta. Cette université est la quatrième université inaugurée par le gouvernement indonésien. L'Université Andalas comprend 15 facultés, donc le campus principal est à Limau Manis, Padang. En dehors de cela, il existe également d'autres campus à Padang, Payakumbu et Dharmasraya. Le 23 décembre 1973, crash d'un avion à réaction au Maroc causant la mort de 106 personnes. Un avion caravelle de Sobeler transportant des passagers s'est écrasé au Maroc le 23 décembre 1973. Auparavant, cet avion s'était écrasé contre une montagne en raison d'un mauvais temps. Sobeler est la plus ancienne compagnie aérienne chartée belge. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kembali, bukan berdiri-berdiri dan Diriku.
Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Et voici la rubrique Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter. Le président est optimiste quant aux conditions économiques de l'Indonésie en 2024. Le ministre coordinateur des affaires économiques, M. Erlangga Hartarto, a déclaré, dans un contexte d'incertitude mondiale, les fondamentaux économiques de l'Indonésie étaient toujours préservés. Le taux d'inflation est relativement maîtrisé et le taux d'endettement public se situe également à un niveau sûr. Erlangga Hartarto a déclaré cela dans son discours d'ouverture du séminaire national 2024 sur les perspectives économiques indonésiennes à Jakarta vendredi 22 décembre. Mais Erlangga a déclaré qu'à l'avenir, un certain nombre de risques doivent encore être anticipés, tels que la volatilité des prix des matières premières, le resserrement des politiques monétaires dans les pays développés, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondial, ainsi que vulnérabilité de la sécurité alimentaire et énergétique due au changement climatique. Erlangga a déclaré qu'à court terme, il était optimiste quant à la croissance de l'économie indonésienne de 5,1% en 2023 et prédit qu'en 2024, il connaîtrait une croissance de 5,2%. Le président Joko Widodo a également exprimé son optimisme quant à l'entrée en 2024. Dans son discours lors du séminaire sur le thème « L'optimisme pour le renforcement de l'économie nationale au milieu de la dynamique mondiale », le président Joko Widodo a déclaré que l'optimisme reposait sur le capital économique et une bonne situation politique.
L'Indonésie est très optimiste.
L'Indonésie est très optimiste parce que nous voyons nos performances économiques et l'optimisme en raison de la situation politique calme à l'approche des élections de 2024. Ce qui est important, c'est un travail acharné et constant, un travail en synergie entre le gouvernement et le secteur privé et un travail durable. Le président a expliqué d'un point de vue économique, tout au long du trimestre 2023, l'économie indonésienne connaîtra toujours une croissance bien comprise dans la fourchette de 5% et le taux d'inflation est bien inférieur à la moyenne mondiale de l'inflation. Le président a ajouté que d'autres indicateurs économiques étaient également bons. Il a expliqué que cet optimisme est basé sur l'augmentation de l'absorption de main d'œuvre de 4,5 millions de personnes entre août 2022 jusqu'à août 2023. L'indice des directeurs d'achat manufacturier en novembre 2023 était toujours à un niveau expansif, à savoir 51,7%. La balance commerciale de l'Indonésie est également toujours excédentaire depuis 43 mois consécutifs. Le président a ajouté que la forte confiance dans les conditions économiques indonésiennes se reflète dans l'indice de confiance des consommateurs de novembre à 123,6. Le chef de l'État est également optimiste que la croissance économique en 2024 sera encore d'environ 5%. Cependant, le président a rappelé de rester prudent et vigilant face à la situation incertitude mondiale aujourd'hui. Le président a encouragé toutes les parties à continuer à faire preuve de cohérence pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers. L'investissement, a ajouté le président, vise à apporter une valeur ajoutée au pays. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
From
Time when everything's right and you're mine, get to know each other just in time. Damn, you are fine for me. In time, I'll be the one who cheer you up. Get to know each other when we fight. Girl, these days are running wild. On Monday I will be, just days a fool, cause I'll let you down, I'm messed around. Wednesday's okay, we'll find a way. Thursday I'll stay when you're away. Friday, all the way to Saturday and Sunday, no need for goodbye me. You'd be the one that I could see hanging just together, you and me, until we both run out of time. You see, the odds are winning for you and me. Just let it flow and let it be. These days are running wild. On Monday we'll cool, just days of fool, cause I'll let you down, I'm messed around. Wednesday's okay, we'll find a way. Thursday I'll stay when you're away. Friday, all the way to Saturday and Sunday, no need for goodbye. Just days a fool, cause I'll let you down, I'm messed around. Wednesday's okay, we'll find a way. Thursday I'll stay when you're away. Monday we'll cool, just days a fool, cause I'll let you down, I'm messed around. Wednesday's okay, we'll find a way. Thursday I'll stay when you're away. Friday, all the way to Saturday and Sunday, no need for goodbye.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la place de Bondo à Jepara, dans la province de Java centrale. La ville de Jepara est célébrée pour ses belles plages. Les zones nord et ouest de Jepara sont directement bordées par la mer. C'est pourquoi cette zone possède de nombreuses plages. L'une des bonnes attractions balnéaires de Jepara est la place de Bondo. La La place de Bondo offre la beauté du sable blanc exotique, ainsi que des vues très apaisantes pour les yeux. En effet, la place est toujours propre et le nombre de l'arbre pandanus qui pousse autour de la place ajoute à la belle impression. S'asseoir et se détendre en profitant de la vue sur la place, tout en étant accompagné du bruit des vagues, est une sensation apaisante. La brise fraîche de la plage, le sable blanc et l'eau de mer bleue se combinent en harmonie avec la beauté de la plage de Bondo Jepara. L'un des avantages de la plage de Bondo est que les vagues sont calmes. Les visiteurs peuvent jouer librement au bord de la plage sans craindre d'être emportés par les vagues. Jouer dans le sable de la plage de Bondo, le sable propre et fin, est un favori des touristes en visite. Pour accroître l'attraction touristique, le gérant propose également divers spots photos intéressants pour prendre des selfies. Son charme sera encore plus beau lorsque le soleil commencera à se coucher. Le ciel orangé rend l'atmosphère plus romantique. Vous pouvez également profiter de la beauté de la nuit en campant sur Grand La Place. Le nom de la place de Bondo, située dans le village de Bondo, sous-district de Bangsri, le district de Jepara, Java Central, est tiré de l'emplacement du village appelé le village de Bondo. La place de Bondo Jepara est ouverte tous les jours pendant 24 heures. La route menant à Bondo est également suffisamment bonne pour que les visiteurs puissent venir en véhicule à deux roues ou en louant une voiture. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta, intitulé La place de Bondo à Jepara, Java Central. Merci à tous, à bientôt.
Take my hand, I give it all tonight. You and me.
Voice of Indonesia.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le sapin de Noël fabriqué à partir de coquillages. Noël est identique à installer un sapin de Noël avec des décorations colorées. Les arbres de Noël sont généralement en pin ou en plastique. Dans la ville d'Ansoron, il y a un sapin de Noël fabriqué à partir de coquillages. L'église Betheldom de la ville de Soron, dans le sud-est de Papouasie, a fabriqué un arbre de Noël à partir de coquillages de 6,3 mètres de haut. Cette innovation a remporté un record pour le Musée indonésien des records du monde, ou MURI. Le prix du record MURI a été décerné dans la cour de l'église Betheldom, sur l'île d'Om, à Soron, le 13 décembre. Le prix a été remis directement par le directeur des opérations de MURI, M. Yusuf Ngadri. Le directeur des opérations de MURI, Yusuf Ngadri, a déclaré que cet arbre de Noël en coquillage est le record du plus grand arbre de Noël fabriqué à partir d'une série de coquillages. Selon lui, il s'agit d'un record MURI qui est un record mondial qui n'existe peut-être que nulle part dans le monde. Pendant ce temps, l'inspirateur pour fabriquer des arbres de Noël en coquillage, Yosura Muay, a déclaré qu'il avait fallu un mois pour collecter 15 000 coquillages. Pendant ce temps, la production a duré 2 semaines et a impliqué 6 jeunes. Le processus de fabrication d'un sapin de Noël à partir de coquillages commence par la collecte des coquillages, leur lavage et leur séchage. Ensuite, les coquilles ont été fixées avec de la colle sur le cadre d'un sapin de Noël de l'église. Le coût total de la fabrication d'un sapin de Noël à partir de coquillages est d'environ 11 millions de roupies. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
In a lifetime, I'm so tired of frowning. You're no healer, and you think that I need you. You can't keep me from falling. I'm too scared to admit it, but I'm so close to the limit. I'm never gonna be what you want anymore. Just take it or leave it.
chance for me. I'm gonna take a chance, take a chance, take a chance, take a chance. I'm gonna take a chance, take that chance for me. Take it or leave it. Take a chance, take a chance, take a chance, take just take it or leave it. Take that chance for me. Take it or leave it.
Ketika itu jurnal World Indonesia difusi dari Jakarta. Sersami avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons vous présenter d'abord une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Stambul Jampang, chantée par Firda Isnai Nabila et Franz Nuryuli. On ne sait pas qui est le compositeur ou non-même, mais parmi le public, en particulier les artistes betawi, Stambul Jampang est déjà très populaire, car en plus d'être unique, l'expression Stambul Jampang apparaît comme la seule meilleure musique pour danser. Cette chanson a de la poésie sous la forme de betawi pantun. Le contenu de la comptine est parfois modifié en fonction de l'atmosphère de l'événement et est généralement une comptine humoristique, une satire amusante, ou un message et des conseils. Bon, chers auditeurs, voici Firda Isnai Nabila et Franz Nuryuli, dont le titre est Stambul Jampang. Bonne écoute!
Dari lah mana ya Allah. nona kuda kereta. Kudalah besar, kuda bermain mata. Sudahlah besar jadi tunangan.
Voice of Indonesia.
Tinggi terbangnya dengar suara.